pour faire le don de soi seulement quand on arrive en milieu artistique du temps, on est en train de mener une vie plus ou moins inconsciente. Le don de soi devient plus ou moins mental, mais ce n'est pas effectif. Comment peut-on faire de commencer dès le début par le don de soi?
Ça dépend des gens. Il y a des gens dont le mouvement psychique, l'impulsion émotive est plus forte que la compréhension intellectuelle. On sent une attraction irrésistible pour le divin, sans avoir la moindre idée de ce que c'est, de ce que ça peut être, de ce que ça représente, rien, aucune notion intellectuelle. Mais une sorte d'impulsion, d'attraction, d'un besoin inévitable. Et ces gens-là qui ont ça, si je pourrais dire par l'effet de la grâce, ils ont un mental qui ne les tourmente pas, qui ne questionne pas, qui ne discute pas, ils vont très vite. Et alors, ce qui est tout à fait miraculeux, selon la conception ordinaire, c'est que dès qu'ils arrivent à ce degré de consécration qui les identifie à travers leur être psychique à la présence divine, tout d'un coup, ils deviennent doués de capacités d'expression qui étaient tout à fait inconnues à leur nature. J'ai eu comme ça le cas en France, il y a fort longtemps, d'une jeune fille, très jeune, qui n'avait jamais eu d'éducation, pour ainsi dire, d'instruction. Elle était danseuse à l'opéra et très bonne danseuse, et elle avait été mise là-bas pour l'étude à 8 ans, comme on l'aimait toujours, c'est-à-dire tout enfant. Et elle avait appris à danser au lieu d'apprendre l'histoire, la géographie, les mathématiques et le reste. Elle ne savait presque pas s'exprimer. Et son intelligence était évidente, mais inculte. Bien, elle a été attirée comme ça. Elle a senti un besoin impérieux de chercher le divin, de se consacrer à lui. Et elle commençait d'abord à danser en son honneur, comme le jongleur de Notre-Dame. Et danser vraiment d'une façon très remarquable. Et puis, tout d'un coup, elle a voulu exprimer ce qu'elle sentait. Elle s'est mise à écrire des lettres qui étaient merveilleusement poétiques. Elle disait des choses étonnantes et d'une façon encore plus étonnante. des pages et des pages se suivaient et elle écrivait ça avec une aisance extraordinaire. Il s'est trouvé, par suite de certaines circonstances, il a eu des difficultés, qu'il y avait quelque chose dans sa nature qui l'a retiré vers sa vieille nature qu'elle avait quittée, qui la rendait pratique et matérielle, qui me faisait voir les choses extérieurement. Et immédiatement, elle ne pouvait plus mettre deux mots l'un après l'autre. Elle ne pouvait pas écrire une ligne sans faire une quantité innombrable de fautes d'orthographe. Quand elle était dans cet état d'inspiration, elle écrivait sans une faute, comme un grand écrivain. Et dès qu'elle était sortie de cet état et qu'elle retombait dans sa conscience, terre à terre, des besoins de la vie, des nécessités de chaque minute, etc. Tout partait. Elle ne pouvait même plus écrire une ligne sans faire des fautes, et c'était d'une vulgarité totale. Alors ça, n'est-ce pas, ça prouve que si l'on arrive à la conscience véritable, il n'y a plus de problème qui se pose. Ce que vous devez être, vous le devenez. Ce que vous devez savoir, vous le savez. Et ce que vous devez faire, vous avez le pouvoir de le faire. Et il s'ensuit naturellement que toutes ces prétendues difficultés disparaissent immédiatement. Dans le cas dont je parle, ce qui l'a tiré en bas, ce n'était pas quelque chose d'elle-même, c'était quelque chose d'un autre. Et malheureusement, c'est ce qui arrive le plus souvent. On s'encombre dans la vie de certaines responsabilités, et elle vous empêche d'avancer. Voilà mon histoire. Il y a d'autres gens qui comprennent d'abord, qui sont très intellectuels, qui ont étudié, qui peuvent jouer avec les idées et les mots, qui vous feront des discours brillants sur toutes les philosophies, toutes les religions, toutes les conceptions humaines, et qui mettront peut-être des années à avancer d'un pas, parce que tout ça se passe dans la tête. Il se passe beaucoup de choses dans la tête. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, la tête c'est comme une place publique. N'importe quoi peut y entrer, venir, croiser, sortir et mettre beaucoup de désordre. Et les gens qui ont l'habitude de jouer avec les idées sont ceux qui sont le plus embarrassés pour aller plus loin. C'est un jeu qui est joli, qui est attractif, qui vous donne l'impression qu'on n'est pas tout à fait ordinaire au niveau de la vie ordinaire. Et ça coupe les ailes. Ce n'est pas la tête qui a des ailes, c'est le cœur. c'est ce. Oui, ce besoin inévitable. Rien d'autre ne compte. C'est tout. Seulement. Et alors, après tout, on se moque bien des obstacles et des difficultés. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça ne compte pas. On se moque bien du temps aussi. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ça, vraiment? Pendant plus longtemps, on aura la joie de l'aspiration. De la consécration du don de soi. Parce que c'est la seule joie vraie. Et quand elle s'efface, cette joie, c'est parce qu'il y a quelque chose d'égoïste. Parce qu'il y a une exigence qu'on appelle un besoin qui se sent mélangé à la consécration. Autrement, la joie ne s'en va jamais. C'est la première chose qu'on gagne. Et c'est la dernière qu'on réalise. Et c'est le signe de la victoire. Tant que vous ne pouvez pas être dans une joie constante, calme, paisible, lumineuse, invariable, eh bien c'est que vous avez encore à travailler pour vous purifier. Quelquefois travailler beaucoup. Mais c'est ça aussi. C'est avec le sens de la séparation qu'est venue la douleur, la souffrance, la misère, l'ignorance, toutes les incapacités. C'est avec le don de soi absolu, l'oubli de soi dans une consécration totale, que la souffrance disparaît et qu'elle est remplacée par une joie que rien ne peut voiler. Et c'est seulement quand cette joie sera établie ici, dans ce monde, qu'il pourra vraiment être transformé. Et qu'il y aura une nouvelle vie, une nouvelle création, une nouvelle réalisation. La joie doit s'établir d'abord dans la conscience et puis après, transformation matérielle prendra place, mais pas avant. À dire vrai, c'est avec l'adversaire que la souffrance est venue dans le monde. Et c'est seulement la joie qui peut le vaincre, rien d'autre. Le vaincre définitivement, finalement. c'est la joie qui a créé et c'est la joie qui accomplira. Notez que je ne parle pas de ce que les hommes appellent la joie, mais qui n'est même pas la caricature, qui est, je crois, une invention de Wolk pour vous faire perdre le chemin. La joie qui vient du plaisir, de l'oubli. Moi, je parle d'une joie qui est la paix parfaite, la lumière sans ombre, l'harmonie, la beauté totale et un pouvoir de résister. La joie qui est la présence divine elle-même, dans son essence, dans sa volonté et dans sa réalisation.
Qu'il faut
conquérir
l'âme d'un
homme. Mais
pour atteindre la joie, il faut d'abord
conquérir l'âme d'un homme. Il faut le dépasser, l'ignorer. Il y a une chose qu'il faut commencer par faire, c'est vrai. C'est se libérer de son influence. Mais il y a une différence entre se libérer de l'influence de l'adversaire et vaincre l'adversaire. Ce n'est pas une petite chose. Il faut avoir un pouvoir plus grand que le sien pour le vaincre. Mais on peut se libérer totalement de son influence et de la minute où on est complètement libéré de son influence, le don de soi peut être total, et avec le don de soi vient la joie. Longtemps avant que l'adversaire ne soit vraiment vaincu et qu'il ne disparaisse. L'adversaire ne disparaîtra que quand il ne sera plus nécessaire dans le monde. Nous savons très bien qu'il est nécessaire comme la pierre de touche pour l'or, savoir si c'est pur. Mais si vous, qui que ce soit, devient vraiment sincère, ce que moi j'appelle sincère, pas ce que Sri Aurobindo appelle sincère, c'est-à-dire que rien dans l'être ne contredise l'aspiration et la volonté de consécration, que rien ne se déguise pour continuer à vivre sa propre vie indépendante. Les déguisements sont innombrables. Ils sont pleins d'astuces et de malices, très trompeurs. Et malheureusement, l'être humain a une très grande tendance innée à se tromper soi-même. Et plus on se trompe soi-même, moins on le reconnaît. Mais si on est vraiment sincère, alors l'adversaire ne peut même plus vous approcher. Et il n'essaye pas. Parce que ce serait aller vers sa destruction. Seulement, il y a des gens qui ont en eux une sorte d'instinct combatif et qui ne se contentent pas de se libérer et de sortir de l'influence, qui justement ont l'idée qu'ils ont la capacité d'aller se battre et de lutter avec l'adversaire. Alors quelquefois, s'ils ne sont pas tout à fait prêts, ils vont se mettre dans de très mauvaises positions, des cas difficiles. Cela c'est seulement la confiance en la grâce divine qui les sauve. Parce que même s'ils font des bêtises et qu'ils se mettent dans des cas difficiles, il y aura toujours quelque chose qui viendra les tirer d'embarras au dernier moment. Un peu comme la mère chatte qui attrape son petit qui va aller se noyer parce qu'il s'est trompé et qui a voulu marcher sur l'eau. Et sortez un peu comme ça. Mais il est toujours dit, il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas faire une chose par dire aimablement. Hardiesse prématurée. Avec l'idée, oh, ça ne fait rien. Le divin me tirera toujours d'embarras. Ça, c'est pas bien. Parce qu'au lieu d'aider au travail, ça le complique. Vous voulez essayer de vous taire pour quelques minutes? Je veux dire dedans. Oui.